Bienvenue sur le comptoir de l'IA du 2 avril du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr.
Salut et merci de m'accueillir à nouveau pour cette exploration.
Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un paradoxe qui a franchement de quoi donner le vertige.
Ouais, le mot est faible.
En fait, pendant des décennies, toute la culture populaire, les films de science-fiction, tout ça, ça a nourri une angoisse très spécifique chez nous.
L'intelligence artificielle qui prend le contrôle.
Exactement. L'IA qui devient consciente, qui décide de nous attaquer ou de détruire nos infrastructures. Et pourtant, là, en ce début d'avril 2026, quand on regarde ce qui panique vraiment les experts mondiaux, bah c'est exactement l'inverse.
C'est ça qui est fascinant.
L'urgence absolue pour notre communauté technique aujourd'hui, c'est pas du tout que l'algorithme nous attaque, c'est que l'algorithme se fasse attaquer.
Tout à fait. Et cette inversion totale de la perception des risques, c'est pas juste un détail, hein. Ça marque une rupture fondamentale. En fait, on a complètement quitté cette phase un peu naïve d'émerveillement technologique.
La phase du gadget magique, quoi.
Voilà, c'est fini ça. On est entré de plein pied dans l'industrialisation critique. L'intelligence artificielle, c'est plus juste une petite fenêtre de conversation sympa sur un écran isolé. C'est devenu une infrastructure mondiale.
Ouais, une infrastructure lourde.
Lourde, ultra complexe et surtout profondément interconnectée avec les rouages les plus vitaux de notre économie.
Tu sais, en préparant cette émission, je me disais que c'est un peu comme l'histoire de l'électricité au début du XXe siècle.
Ah oui, l'analogie marche très bien.
Bah oui, au tout départ, l'électricité, ça tenait du tour de magie. On montrait ça dans les foires internationales, ça éblouissait la foule avec des petites ampoules qui clignotent. Et puis, de manière presque foudroyante, on s'est mis à tirer des câbles partout.
Dans chaque maison, chaque usine.
Exactement. Dans chaque mur. Et le résultat de cette omniprésence soudaine, c'est qu'il a fallu inventer, mais vraiment du jour au lendemain, les normes de construction modernes et déployer des brigades de pompiers pour gérer les courts-circuits.
Les fameux incendies électriques.
C'est ça. Eh bien, aujourd'hui, pour l'IA, nos normes de construction, ce sont les régulations, et nos pompiers, bah, ce sont les spécialistes de la cybersécurité.
Et le parallèle est d'autant plus pertinent que ces nouveaux « incendies », entre guillemets, ils couvent à un niveau structurel inédit. Pour ceux qui nous écoutent, il suffit de regarder ce qui vient de se passer à Lille.
Au forum ANCBR.
Exactement. La 18e édition vient de s'achever. Ça réunit la crème de la crème des spécialistes européens de la sécurité informatique. Et la conférence qui a fait salle comble, elle s'intitulait très sobrement « Secure AI ».
Sécuriser l'IA ?
Voilà. Et c'est historique parce que pour la toute première fois dans ce forum, l'IA n'était plus du tout présentée comme un super bouclier pour repérer les pirates.
Ah ouais, le changement de paradigme.
Total. Elle a été présentée comme la surface d'attaque principale, la cible numéro un.
Et du coup, techniquement parlant, comment on explique cette vulnérabilité ? Parce que qu'est-ce qui fait qu'un modèle de langage, qui passait son temps à résumer des textes ou à écrire des petits poèmes il y a à peine 2 ans, devient soudainement la cible prioritaire d'un cybercriminel ?
La réponse, elle tient en un mot, l'accès. C'est le niveau d'accès qu'on lui a donné. Tant que le modèle tournait en vase clos sur un serveur loin de tout, bah le pire qu'un pirate pouvait faire, c'était de le forcer à dire des gros mots ou des choses incohérentes.
Le risque économique était proche de zéro, en gros.
Nul. Mais en 2026, ces mêmes modèles, ils font quoi ? Ils lisent les correspondances confidentielles des PDG. Ils manipulent les bases de données clients.
Ils gèrent même la logistique, non ?
Absolument. Les chaînes d'approvisionnement entières. Donc si un acteur malveillant utilise une technique comme l'injection de requête...
Attends, l'injection de requête, c'est quand on glisse des commandes invisibles dans un document, c'est ça ?
C'est exactement ça. Le modèle analyse le document, lit la commande invisible et l'exécute sans prévenir personne. Le pirate peut carrément lui ordonner d'extraire des secrets industriels et de les envoyer discrètement vers l'extérieur.
Waouh !
En fait, pirater le modèle aujourd'hui, c'est pirater le système nerveux central de l'entreprise.
C'est fou quand on y pense. Et si on a pris ce risque immense de connecter ces algorithmes à nos artères vitales, j'imagine que c'est parce que la valeur ajoutée est juste impossible à ignorer.
Ben, le gain de productivité est tel que personne ne veut rater le train.
Et ça, ça nous plonge directement au cœur de la vraie révolution silencieuse de cette année. Je veux parler des agents autonomes, ce que l'industrie appelle les flux de travail agentiques.
Ah, les fameux flux de travail agentiques. C'est la transition pure et simple entre un outil passif et un acteur dynamique.
Comment ça, dynamique un agent ?
Rappelle-toi des premières années de l'IA générative. On était dans le conversationnel. Tu posais une question, la machine te donnait une réponse, et c'était à toi, l'humain, d'aller exécuter la tâche ensuite.
Ouais, le fameux copier-coller dans un autre logiciel.
Voilà. Aujourd'hui, avec un agent autonome, tu lui donnes juste un objectif global, genre optimise les dépenses de transport pour ce trimestre.
Et il se débrouille tout seul.
Il va lui-même interroger les logiciels comptables d'entreprise, comparer les devis en ligne, rédiger les courriels pour négocier avec les fournisseurs, et à la fin, il te propose juste un bouton pour valider.
C'est comme si, avant, utiliser un modèle de base, c'était solliciter un consultant externe ultra brillant.
Ouais, j'aime bien l'idée.
Le consultant, il te donne un super conseil stratégique dans la salle de réunion. Mais à 18h, il rentre chez lui, il n'a pas les clés du bâtiment et il n'a surtout pas le chéquier de la boîte.
C'est ça.
Alors qu'aujourd'hui, l'agent autonome, c'est un employé à qui on a littéralement donné le badge d'accès universel et la carte bancaire de la société.
C'est exactement pour ça que la sécurité est devenue si critique.
Et ça éclaire d'ailleurs d'un jour nouveau ce partenariat dont tout le monde a parlé récemment. Le deal à 200 millions de dollars entre Snowflake et OpenAI.
200 millions juste pour de l'intégration ? Oui, Snowflake, c'est un géant de l'hébergement de données. Et le but de ce partenariat, c'est pas du tout de créer un nouveau réseau de neurones avec encore plus de paramètres généraux. On s'en fiche un peu de ça maintenant.
L'objectif est purement opérationnel.
Totalement. C'est de permettre le déploiement de ces agents autonomes de manière ultra sécurisée, directement là où dorment les données propriétaires des clients.
Pour ne pas avoir à sortir les données.
Exactement. L'enjeu technique colossal, c'est d'amener l'intelligence artificielle vers la base de données, sans que jamais les informations confidentielles ne soient extraites ou copiées sur un serveur externe.
Donc on construit un pont blindé entre le cerveau algorithmique et le coffre-fort.
C'est la métaphore parfaite. On n'est plus du tout dans une course à la taille du modèle, c'est une course à l'intégration.
Et sur ce front de l'intégration, il y a une norme qui a raflé toute la mise récemment, le protocole MCP.
Ah, le fameux MCP développé par Anthropic. C'est devenu le standard absolu de 2026.
Pour ceux qui sont un peu moins techniques, pourquoi ce protocole est si révolutionnaire ?
En fait, avant le MCP, si un développeur voulait brancher un agent IA sur un logiciel métier de l'entreprise, il devait bricoler une connexion personnalisée.
Un truc fait maison.
Ouais, un truc fait maison, fragile, coûteux à maintenir et souvent plein de failles de sécurité. Le protocole MCP, lui, agit comme un traducteur universel et un SaaS de sécurité hyper strict.
Et ça marche tellement bien que même les concurrents d'Anthropic s'y sont mis.
Bah, ils n'ont pas eu le choix. Microsoft, OpenAI, Google, tout le monde a dû plier et adopter ce standard.
D'ailleurs, puisqu'on parle de Google et de cette frénésie d'optimisation, faut qu'on parle de cette fuite récente, l'information sur le projet Alpha Evolve de Google DeepMind.
Oh là là, oui, Alpha Evolve, c'est vertigineux.
Franchement, ça dépasse l'entendement. On n'est plus du tout dans l'agent qui trie sagement des factures, là. On parle d'une intelligence artificielle dont l'unique raison d'être, c'est de concevoir de meilleures intelligences artificielles.
C'est la fameuse boucle d'auto-amélioration que les théoriciens nous annonçaient il y a 10 ans en disant que c'était de la science-fiction. Bah, on y est. Ça fait un an que c'est déployé discrètement en interne.
Et comment ça marche concrètement ?
Alpha Evolve intègre des algorithmes évolutifs au cœur même de l'architecture du modèle Gemini. Le principe, ça s'inspire directement de la théorie de l'évolution de Darwin.
La sélection naturelle de code informatique.
C'est ça. Le système pond des milliers de variations de son propre code, il les teste tout en temps réel, il tue les versions les moins performantes et il garde les meilleures pour la génération d'après. Il réécrit son propre cerveau de façon itérative.
Mais ce qui est sidérant là-dedans, au-delà du concept qui fait un peu peur, c'est la débauche de ressources que ça exige. J'ai lu qu'Alpha Evolve consommerait en permanence 0,7% de la puissance de calcul mondiale de Google.
0,7%, ouais.
Mais attends, à l'échelle des fermes de serveurs de Google sur toute la planète, c'est une quantité d'énergie et de processeurs complètement dingue, juste pour qu'une machine réfléchisse à comment s'améliorer.
C'est faramineux, oui. Mais le retour sur investissement est là. Ils ont mesuré une accélération de 23% sur certaines parties de l'architecture de Gemini.
23% d'efficacité en plus générée par la machine elle-même.
Voilà. Sauf que, et c'est là que ça devient politique, cette concentration inouïe de puissance de calcul pose un problème massif de dépendance. Si les géants américains ont des infrastructures capables de s'auto-améliorer à cette vitesse, on fait quoi en Europe ?
Exactement. Vers qui se tournent nos entreprises pour garder un semblant d'indépendance et protéger leurs secrets ?
C'est tout l'enjeu de la souveraineté.
Et justement, la souveraineté, c'est plus juste un mot à la mode dans les couloirs du Parlement européen. C'est le vrai nerf de la guerre aujourd'hui. D'ailleurs, le marché européen commence à riposter sérieusement.
Tu penses à OVH ?
Ouais, entre autres. OVH qui a absorbé la technologie Dragon LLM récemment. Leur proposition est hyper intéressante. Ils essaient pas de faire un méga modèle pour concurrencer frontalement Gemini et OpenAI.
Ce serait peine perdue de toute façon sur les modèles généralistes.
C'est ça. Eux, ils misent tout sur l'ajustement fin, le sur-mesure pour les secteurs très régulés.
C'est une stratégie brillante de la part d'EVH. Parce qu'aujourd'hui, un hôpital qui traite des milliers de dossiers médicaux ou une banque avec des données financières sensibles, ils n'ont pas le droit, légalement, d'envoyer tout ça sur un serveur à l'autre bout du monde.
Les risques de fuite sont trop grands.
Voilà. Donc, l'ajustement fin. Ça permet de prendre un modèle de base moyen et de le surentraîner uniquement sur, disons, le jargon médical précis de cet hôpital.
Et le résultat ?
T'obtiens un modèle plus petit, vachement plus rapide et ultra spécialiste de ton métier. Mais surtout, et c'est l'argument massue, ce modèle tourne sur des serveurs localisés physiquement en Europe sous le droit européen.
La souveraineté devient un produit commercial.
C'est exactement ça, une prestation de service.
D'ailleurs, on voit bien que cette quête de confiance, elle touche tout le monde, pas que les hôpitaux. Le dernier baromètre CRDOC de 2026 pour la France vient de tomber, et les chiffres sont parlants.
Très parlants.
Sans grande surprise, ChatGPT domine toujours outrageusement le marché avec 79% des utilisateurs français.
Le premier arrivé rafle la mise.
Mais en deuxième position, on a le chat de l'entreprise française Mistral, qui a réussi à capter 14% des usages. Alors quand on voit 14 face à 79, on pourrait se dire que c'est un échec total.
Sauf que pas du tout.
Bah oui, c'est ce que je me disais. Est-ce que c'est pas plutôt une super tête de pont dans un marché qui était quasi monopolistique ?
Atteindre 14% de part de marché face à l'entreprise qui, je le rappelle, littéralement inventait la catégorie de produits aux yeux du grand public, c'est une prouesse industrielle énorme.
Surtout avec la force de frappe médiatique des Américains.
Bien sûr. Mais en fait, la donnée la plus cruciale de ce baromètre CRDoc, c'est pas la guerre entre ces deux-là.
C'est la part de ceux qui refusent d'y toucher.
Exactement. 30% des sondés refusent catégoriquement d'utiliser ces intelligences artificielles génératives. Et quand on leur demande pourquoi, la réponse numéro 1, c'est le manque de confiance sur le traitement de leurs données.
La peur qu'on revende leurs infos ou qu'on s'en serve.
C'est ça. Le vrai trésor de guerre, il est là. La prochaine phase de croissance pour ces boîtes, ça sera pas de piquer des utilisateurs à ChatGPT, ce sera de convaincre ces 30% de réfractaires.
Et pour les convaincre, ainsi que pour rassurer les administrations, la transparence, c'est plus juste une posture pour faire plaisir aux députés, c'est devenu l'argument de vente majeur.
Un avantage concurrentiel énorme, ouais. Promettre noir sur blanc que tes données ne serviront pas à entraîner la version d'après.
Mais on sent bien que c'est tendu comme équilibre. T'as vu passer ce billet d'humeur récent sur les rumeurs d'exil de Mistral en Suisse ?
Ouais, ça fait pas mal de bruit.
Ça montre bien la complexité du truc. Trouver l'équilibre entre des besoins de financement colossaux, le rythme de l'innovation et en même temps respecter les contraintes réglementaires européennes, c'est un exercice d'équilibriste.
Très périlleux. Mais tu sais, ce besoin de protection, il s'arrête pas aux données des utilisateurs ou aux secrets industriels.
Tu veux parler de la matière première des modèles IA ?
Voilà. Si on remonte à la source, on tombe sur le problème fondamental. Les textes, les articles, les photos, bref, toutes les créations humaines qui ont été aspirées en masse pour éduquer ces machines.
Le fameux droit d'auteur. Et là, le législateur court derrière un train qui file à la vitesse de la lumière.
C'est le cas de le dire. Le décalage entre le temps technique et le temps politique est flagrant. Mais l'Europe essaye de réagir. Mi-mars, le Parlement européen a voté une résolution pour encadrer l'IA générative.
Avec une demande de clarification sur la directive CDSM, c'est ça ?
Tout à fait. La directive sur le droit d'auteur. Le but est double. Forcer la transparence sur ce qui a été avalé pendant l'entraînement et surtout imposer les outils standardisés pour l'option de retrait.
L'option de retrait pour que les auteurs puissent dire « je vous interdis d'utiliser mon œuvre ».
Voilà.
Alors sur le papier, c'est génial. Mais d'un point de vue purement pragmatique, on fait comment ?
C'est là que ça coince.
Parce que forcer un algorithme qui s'est goinfré d'images pendant 6 mois à oublier un artiste spécifique, alors qu'il a déjà complètement intégré son style, c'est impossible. C'est comme essayer de retirer la farine d'un gâteau qui est déjà cuit. La matière est transformée irréversiblement.
C'est la métaphore parfaite. Les chercheurs appellent ça le défi de l'amnésie artificielle. Et c'est un casse-tête monumental, parce que la connaissance dans un réseau de neurones, c'est pas un fichier Word rangé dans un dossier qu'on pourrait juste mettre à la corbeille.
Ouais, il n'y a pas de bouton supprimé.
L'apprentissage, il a modifié la force mathématique de milliards de connexions. Pour qu'une machine oublie le style d'un illustrateur, il faudrait retrouver les combinaisons mathématiques exactes de son style et les défaire, sans casser la capacité du modèle à comprendre comment on dessine un visage ou de la lumière.
Une vraie opération à cœur ouvert.
presque impossible techniquement à grande échelle. C'est pour ça que l'Europe insiste sur la standardisation en amont.
Parce que si chaque petit photographe doit envoyer une lettre de mise en demeure à des multinationales opaques pour enlever ses photos...
Le combat est perdu d'avance. Il faut une balise informatique universelle, intégrée dès la création du fichier. Et les robots d'aspiration auraient l'obligation de la lire et de la respecter avant même d'aspirer la donnée.
Sinon, la création humaine va juste se noyer. Et d'ailleurs, l'urgence, on la voit dans les chiffres. T'as vu l'étude d'Arefs là-dessus ?
Sur le volume de trafic, oui, c'est glaçant.
Ils ont mesuré que le trafic Internet mondial généré par l'IA a été multiplié par 9,7 en un an.
Quasiment par 10.
On assiste à une inondation totale d'informations synthétiques. Et l'effet pervers de ce volume massif, c'est ce que beaucoup appellent maintenant la génération mensonge.
Les hallucinations des modèles.
Ouais, ces moments où la machine affirme un truc totalement faux, factuellement erroné, mais avec un ton d'autorité absolu. Avec des volumes pareils, ça devient un vecteur de désinformation massif.
Et ça nous amène à un point essentiel, cette asymétrie de pouvoir écrasante entre, d'un côté, ces géants technologiques, et de l'autre, le simple citoyen ou la petite entreprise. Ça va bien plus loin que le droit d'auteur.
C'est une question de survie économique au quotidien. Et ça fait parfaitement le pont avec ce rapport très alarmant publié par le cabinet de conseil Simadia.
Un rapport qui pointe la fragilité numérique à l'échelle humaine.
Exactement. Leur analyse se concentre sur notre tissu économique local. Les artisans, les TPE, les PME. Pendant des années, beaucoup d'entre eux ont cru que la bonne stratégie, c'était de bâtir toute leur présence en ligne uniquement sur Facebook ou Instagram.
Bah, c'était facile, gratuit et il y avait déjà l'audience.
C'est clair. Mais aujourd'hui, avec l'intégration brutale d'algorithmes de recommandation dopés à l'IA, le piège se referme.
Construire sa boîte sur un réseau social, c'est construire sur du sable.
C'est ça. Moi, j'aime bien dire que c'est comme construire son magasin physique sur un terrain qu'on loue, mais sans aucun contrat. Et le propriétaire du terrain peut décider en pleine nuit de changer les serrures de la boutique.
Sans préavis.
Sans préavis, ou de masquer ta vitrine ou de confisquer tes produits, juste parce qu'un bout de code a décidé que t'étais plus pertinent.
Et ces changements de serrure virtuelle, ça crée des vrais drames. Du jour au lendemain, l'algorithme change et la visibilité d'un commerce est divisée par 10. Ou pire, un robot de modération supprime un compte artisan suivi par 10 000 personnes.
Et va trouver un humain à qui parler au service client.
Impossible. Face à ce risque de dépossession, la conclusion de Simadio est radicale mais nécessaire. Il faut réinvestir dans ses propres infrastructures.
Posséder son site internet ?
Avoir son site, contrôler sa propre liste de courriels et miser sur le référencement naturel avec du contenu de vraie valeur. Ne plus dépendre d'un flux automatisé. C'est la seule résilience possible.
Et tu vois, je trouve ça dingue comme tous ces enjeux convergent. Que tu sois une multinationale qui lâche 200 millions avec Snowflake pour sécuriser ses bases de données,
ou un artisan breton qui décide de lancer son site web pour fuir l'algorithme d'Instagram.
La règle d'or pour 2026 est exactement la même. La maîtrise souveraine de ses canaux et de ses données.
Et personne n'y échappe. On l'a encore vu récemment avec l'actualité sociale chez Dell France.
Ah oui, les licenciements.
Des licenciements officiellement justifiés par la direction à cause de l'intégration interne d'outils d'automatisation et d'IA. C'est plus des projections sur le futur du travail, là. C'est de la macroéconomie en temps réel.
C'est clair. Franchement, en parcourant tous ces dossiers aujourd'hui, du sommet sur la cybersécurité à la survie des petits commerçants, je crois qu'on peut dire que 2026 marque la fin de notre innocence technologique. L'intelligence artificielle, elle est là, elle est encastrée dans nos vies, on essaye de la réguler et elle redessine tous les rapports de force.
L'ère de l'expérimentation insouciante est derrière nous. On est dans l'ère des conséquences. Chaque choix qu'on fait aujourd'hui, que ce soit un standard comme le MCP ou une loi sur le droit d'auteur, ça va impacter notre économie pour les 20 prochaines années.
Ça sera notre mot de la fin pour ce décryptage. Mais avant de se quitter, je voulais partager avec notre auditoire une dernière réflexion, un peu vertigineuse, on va pas se mentir.
Je t'écoute.
On parlait d'Alpha Evolve tout à l'heure. Cette machine capable d'utiliser des puissances de calcul gigantesques pour concevoir d'elle-même en continu des architectures IA toujours plus complexes.
Ouais. Qui s'améliore toute seule.
Eh bien, mettez ça en face de la machinerie réglementaire humaine. Nos directives européennes, elles prennent des mois, souvent des années de débats, de comités et de votes pour encadrer des technologies qui sont déjà obsolètes le jour où la loi est publiée.
C'est le grand écart.
La question qu'on peut se poser ce soir, et je la laisse ouverte pour ceux qui nous écoutent, à quel moment précis le rythme naturel de nos démocraties va-t-il devenir mathématiquement trop lent pour espérer encadrer une intelligence algorithmique qui s'optimise toute seule, jour après jour ? Une réflexion vraiment indispensable pour préparer la suite.
Ça donne matière à réfléchir, c'est sûr.
Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.